Alors, on y va. Il a dit du lashon hara sur quelqu'un et il veut faire tchouva là-dessus. Il regrette, il veut faire tchouva sur le lashon hara qu'il a dit. Alors, c'est comme ça. Im hashom im dachut varav. Si les gens qui ont écouté ce lashon hara, dachut varav, ils ont repoussé ce qu'il a dit. Velonit gana chavero, et donc, du ce fait-là, son ami n'a pas été insulté. Bénéme à leurs yeux, par contre. Ils ont dit, non, non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Donc, ils n'ont pas accepté son lashon hara. Imken, par conséquent, l'onishar alav rak avon ben adam la makom, il lui reste plus qu'une seule faute, c'est entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vetikuno, sheitcharet, et donc, pour réparer, il va regretter et il va faire vidouille. Vikabel alasmo, belev shalem, allez, avant, il doit prendre un cœur entier pour le futur, chez Lola Sotken, de ne plus faire la chanara. Donc, puisque les gens n'ont pas accepté, donc il a rien, il a fauté que envers Dieu, et donc il fait tchouva, fait vidouille, un kippour, et c'est fini. Et évidemment, il ne recommence plus. Aval im, chaveronit gana et tselachomi, mais si, son ami a été, il y a eu une trace chez les gens qui ont entendu. Ils ont dit, ah oui, ah bon, hein. Venigram lour ezek. Et que de ce fait-là, il a eu un dommage, son ami. Soit begoufo. Par contre, soit begoufo. Soit ils l'ont pas parlé comme il faut, etc. Oh, bemamono. Ou ils l'ont boycotté financièrement, par exemple. Oh, shista er aliedese. Ou alors il a eu de la peine quand on parle comme ça sur lui. Donc trois cannes. Ou sur son corps, son argent, ou sa sensibilité. À ce moment-là, rezé que chol avonot chez ben adam la chavero. Donc ça reste comme une faute habituelle entre les individus. Ben adam la chavero. Que ça, filou yom akipurim. Que ça, même Kippour, ni Yom Amita, ni même la mort, ne peut faire pardonner. Hatshe yiratze travero, jusqu'à ce qu'il fasse la paix avec son ami. D'accord? Alken, c'est pourquoi, tsaril levakesh mechila mechavero alze, donc il doit lui demander pardon. S'il sait que ce qu'il a dit a eu un impact quelconque, il doit lui demander pardon. Zachar kar yashuv min avon sheben adam la makom, et après il fera tshuva sur le bgam, le défaut qu'il a fait dans son âme vis-à-vis de Dieu. La filu chavero eno yodea adain klal, il doit commencer par faire la paix avec son ami avant de faire, parce que Dieu ne lui pardonnera pas s'il n'a pas demandé pardon à son ami. Et il dit, même si son ami n'est pas au courant du tout, Sarir le galot lo maché à ça. Kenekdo, il doit lui dire ce qu'il lui a fait. Si c'était pas bien ce qu'il a fait, il doit lui demander pardon. Kivan shu yodea, shi aliadon, nispav, lo davarze, puisque c'est à cause de lui que cette chose-là a été entraînée. Avant Yom Kippour, qu'est-ce que ça veut dire avant Yom Kippour? Qui c'est qui a dit avant Yom Kippour? L'Admor Hazaken dit avant Yom Kippour, c'est le soir de Kippour. Ça s'appelle avant Yom Kippour. Vous avez compris? Non? Vous n'avez pas compris? Je vous répète. Avant Yom Kippour, l'Admor Hazaken vous dit c'est le soir de Yom Kippour. Quand on dit rêve Yom Kippour, c'est pas, il faut attendre une heure avant la fête pour dire, ah, tiens, je vais demander pardon. Il faut avant Yom Kippour, c'est-à-dire le lendemain soir de Yom Kippour, c'est ce jour-là qu'il faut demander pardon. Pour toute l'année. Vous avez compris? Non?
Nila.
Mais non! Nila, pas Nila. Ça, quand on dit Erev Yom Kippour, ça veut dire la veille de Yom Kippour 2008, c'est la nuit de Yom Kippour 2007. C'est ça la veille de Yom Kippour. C'est pas la veille de Yom Kippour 2008 qu'on demande pardon, c'est le lendemain soir de Yom Kippour 2007 qu'il faut commencer à demander pardon déjà. Quand on dit Avant Yom Kippour, ça veut dire que c'est le dernier délai si on ne l'a pas fait depuis. Si vous traînez même une heure, si vous pouvez demander pardon et vous laissez une heure traîner, vous êtes en état d'infraction très grave. Votre fila n'est pas acceptée, etc. Ah, les enfants sont en danger. Tout bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bataille. Ce que les gens croient. C'est une blague quand les gens disent Erev Yom Kippour. Erev Yom Kippour, c'est le dernier délai pour le faire. Aucune mitzvah Erev Yom Kippour. La mitzvah, c'est dès qu'on l'a fait, le jour où on l'a fait. D'accord? Donc, par exemple, si vous dites, par exemple, si vous dites n'achète pas dans ce magasin, pas cachère, ou ce que je sais, un truc que vous pouvez inventer sur les gens. Comme le malade s'y fait sur la Shemitah. Interdiction de manger, termerkira, hein, il doit demander pardon à tout le monde entier, quoi. Pour avoir fait un problème financier à quelqu'un. Etc., etc. Je n'entends pas, vous parlez trop faible et le ventilateur vous couvre. Et les auditeurs non plus. Ouais. C'est le casse-pi, ouais. Ah oui, c'est un truc vrai. Tout problème, c'est ce que je vous dis, est-ce que c'est vrai? C'est ça la question à chaque fois. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du badat avec la shmita, parce que tu me dises, moi, je ne mange pas Eter Mechira parce que je me fais un idour de manger au Tsar Bedin, mais de là à dire que ce qui n'est pas ma kashrout, c'est pas kasher, tu risques de faire un nézek à beaucoup de gens. Bon, allez. Ça va? Pas de questions? Non, vous pouvez dire, moi, il m'est arrivé ça. C'est pas sûr que ce soit un clal chez tous les gens qui vont chez lui, ce type-là. Chez lui, vous avez eu un problème, mais peut-être que la personne n'en aura pas. Donc, c'est-à-dire, moi, il m'est arrivé ça, je te dis, bon, comment il m'est arrivé ça? Mais de là de dire ne va pas, je peux pas te dire ne va pas, je te dis ce qui s'est passé. C'est possible que si un autre commerçant, le même commerçant, un autre employé va vous dire autrement, vous savez comment c'est. Ou il était mal luné, il vous a fait une entourloupe, un autre il ne va pas lui faire. Alors, mais c'est là, vous dites, voilà, moi il m'est arrivé ça, je te raconte exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, tu prends tes dispositions. Il ne faut jamais tirer des conséquences générales. Il faut dire une vérité et aux gens de tirer leurs conclusions. Bon, un médecin, un dentiste, ou un plombier. Chaque médecin, ou chaque dentiste, ou chaque plombier, ou chaque assureur, ou chaque avocat, il a ses clients. Il a ses clients, qu'il est décrété que c'est avec cela il va travailler. Donc avec celui-là, il a fait un bon travail, avec celui-là, il va pas faire un bon travail. Donc vous pouvez pas dire, ah, ne va pas chez ce médecin, c'est un bandit. Avec moi, il n'a pas été comme il faut, mais non, je ne peux pas savoir comment il va être avec toi. Vous avez compris? C'est une xéra, mais un shamaïm, que lui, il est fait pour vous soigner à vous. Et il n'est pas fait pour la soigner à elle, donc automatiquement, avec elle, ça va mal se passer, avec lui, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que vous devez dire, moi, avec moi, j'étais très content de ce boucher, j'étais très content de ce plombier, j'étais très content de ce peintre. Un autre va dire, ah non, c'était infect. C'est très, très subjectif. Ça, non, donc vous avez le droit de raconter, mais de raconter ce qui vous est arrivé sans en faire un clal. Voilà. Une halakha plus facile, halakha du Shabbat. Une halakha du Shabbat. Doit-on changer les chaussures pour Shabbat? Le Mishnah Brura, il dit, Tov, c'est bon de ne pas habiller, il s'habille le Shabbat comme on s'habille le Chol. Et donc, le mieux, c'est de tout changer. Tout ce qu'on a de Chol, on met autre chose que Shabbat. Ça, c'est le, la Midat Chassidou. De tout changer, d'accord? Maintenant, sur les chaussures, le Yerushalmi dit que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des chaussures spéciales pour Shabbat ou pas de Shabbat. Et là, on tire qu'il n'y a pas besoin de changer de chaussures Shabbat. Seulement, si on garde les mêmes, on doit les cirer pour qu'elles soient propres. C'est tout. Alors, si vous voulez faire un ido, alors vous changez aussi les chaussures. Comme la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont pas comme avant, ils n'avaient qu'une chemise et qu'un pantalon et qu'une paire de chaussures. Aujourd'hui, tous les gens ont de la rechange dans tous les domaines. Donc, si toutes les semaines ils changent, dans la semaine ils changent de chaussures et le Shabbat ils vont faire exprès de ne pas la changer, c'est pas correct. C'est simplement le din. On dit, dans le din, il n'y a pas besoin. Il suffit de cirer, c'est tout. D'enlever les saletés. Pas de questions? Voilà. Également, minhag Israël de se couper les ongles avant Shabbat. Alors, que se passe-t-il maintenant, par exemple, si la halakha dit qu'il ne faut pas se couper les ongles des mains jeudi parce que ça se voit Shabbat? Les pieds, oui. Les pieds, ça pousse pas. On les voit pas. Vous savez que les ongles des pieds poussent beaucoup plus lentement que les ongles des mains. Les ongles des mains, vous les coupez une fois tous les 15 jours. Alors que les ongles des pieds, vous pouvez les couper tous les 3 mois. Ça se voit pas tellement. Donc, les ongles des pieds, on n'a pas fait de xéra, puisque on voit pas on peut pas voir que ça a avancé entre le jeudi et le Shabbat. Mais les ongles des mains, on dit qu'on voit, donc, pour éviter que les gens disent, ah, mais il s'est coupé les ongles, celui-là. Donc, on se coupe pas les ongles jeudi. Maintenant, si Nagid, vendredi, ça tombe Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, on n'a pas l'habitude de faire des melachot. Laver du linge, couper les ongles, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc, pour ne pas les couper Rosh Chodesh, là, vous pouvez les couper jeudi. Vous avez compris? C'est plus grave de couper Rosh Chodesh des ongles que de les couper jeudi à cause du Shabbat. Voilà. Maintenant, quant à l'ordre qu'on utilise, globalement, il ne faut pas les couper dans l'ordre. Parce qu'on dit qu'il n'y a que les morts. Quand les morts, ils font la pureté, on leur coupe les ongles dans l'ordre. Alors, pour éviter, parce qu'on est superstitieux, en général, pour pas ressembler à un mort, alors on se les coupe en quinconce. 1, 3, 5, 2, 4, et 2, 4, 1, 3, 5. D'accord? Voilà. Et si vous n'avez pas respecté l'ordre, c'est pas la fin du monde, c'est pas une halakha du Sinaï. C'est simple, une conduite du fait de, qu'on a peur, qu'on est superstitieux. C'est pour ça que le Arizal, lui, tenait pas du tout de ces trucs-là. Il se coupait les ongles dans l'or, et le même jour les deux, il faisait pas attention à tout ça. Parce que lui, était au-dessus du mauvais œil et des superstitions. Et comme nous ne sommes pas protégés, alors nous, on a peur de petites choses, et comme ça, il vaut mieux se conduire. Pas de questions? Non? Pas de questions. Vous m'avez l'air de dormir ce soir. J'espère que nos auditeurs ne dorment pas aux quatre coins du monde. Vous somnolez copieusement. Alors, on va parler de Pini Cohen. Vous avez connu Pini Cohen? Pinchas à Cohen, comme ça l'israélien il va appeler Pini Cohen.
Donc,
on va soulever un point très très important dans cette paracha, et on passe en général à côté de ce point. Vayedaber Hashem el Moshe lemor, Pinchas ben Eleazar, le fils d'Eleazar, le fils de Aaron à Cohen, et Shiv et Tramati et al ben Israël, il m'a fait replier ma colère, mais Kano et Kinati, en vengeant ma vengeance, Betoham parmi eux, l'Ochiliti et ben Israël, et j'ai pas exterminé le peuple juif, Bekinati, dans ma colère qu'ils ont déclenchée. La reine est mort, c'est pourquoi je dis, Inéninotello, que je lui donne, et Briti, Shalom, mon alliance de paix. D'accord? Bon, évidemment, tout de suite, vous connaissez la question. Rashi s'étonne. À la fin de la paracha d'avant, on a déjà dit que Pinchas, on dit Vayar Pinchas, il a vu Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à Cohen, il s'est levé, il a pris sa lance. Et il a tué Zimri. Bon, donc on vient de le voir juste avant. Il s'appelle Pinchas, Ben Eleazar, Ben Aaron à Cohen. Pourquoi tu le répètes encore une fois? Tu aurais dû me dire simplement Pinchas, sans me dire Ben Eleazar ou Ben Aaron, puisque je le sais juste avant. On ne peut pas oublier si vite, trois psukim avant. Donc, comme cette question elle choque Rashi, alors il explique pourquoi la Torah a répété. Pourquoi la Torah a répété? La Torah, elle dit, Rashi ramène un Midrash, très connu, Midrash Rabbah, qui dit: comme les tribus faisaient honte à Pinchas, et elles disaient, les gens disaient, Eritem ben Poutizé, vous avez vu le fils de Pouti, c'est-à-dire le descendant de Yitro. Pouti, c'est Yitro. Hein? Ce qui était prince de Pouti en Égypte. Avant d'être obligé de se sauver, quand il a défendu les Juifs en Égypte, il était prince, et une des régions, c'est la région de Pouti. Comme vous diriez, c'est le Soudan d'aujourd'hui. Hein? Poutifar. C'est aussi le prince de cette région-là. Donc c'était des gens très importants. Donc il s'est appelé Pouti, alors son nom c'était Yitro. Donc vous avez vu le fils de Pouti. Pourquoi il a appelé de ce nom-là Pouti? Parce que Shepitem Avi Imo, que le père de sa maman, Yitro, c'était le père de sa maman. Eleazar, c'est le fils d'Aaron par son père, et il était marié avec l'une des filles de Yitro. Donc ils ont dit, regardez, celui-là, qui est le fils de Pouti, on l'appelait comme ça, parce qu'il nourrissait chez Pitem, qu'il gavait, et à Avimo, le père de sa mère, c'est-à-dire Yitro, il gavait les Agalim, les veaux, là, Avodazara, avant de les égorger pour Avodazara. Voilà ce qu'il faisait avant. Ve'arag Nasi, et il a tué un prince, Shevet, d'une tribu en Israël. Donc les gens lui faisaient honte en disant, voyez, il a, comme son grand-père était un homme cruel, qui donnait à manger aux veaux avant de les égorger pour Avodah Zarah, et bien lui aussi il a fait ça par cruauté, parce qu'il tient de sa mère. Il tient de sa mère. C'est passé à travers l'hérédité du grand-père maternel qui est passé chez le petit-fils par la mère. Le fichar. Et donc, comme il disait ça, les gens, comme il lui faisait honte, ouais.
C'est sûr?
Comme il disait ça, il lui faisait honte. Il disait, son acte, en vérité, c'est un acte qui est dû à sa cruauté du côté de sa mère. Le fichar, c'est pourquoi Ba'akatouv, le verset est venu, Ve'irso, et l'a relié généalogiquement à Aaron, après Aaron. Vous avez compris? Donc ça veut dire, Pinchas, il avait deux grands-pères, donc l'acte qu'il a fait de tuer Zimri, il faut avoir eu le sang-froid pour tuer quelqu'un, d'accord? Vous voyez bien, grâce au gouvernement israélien, d'accord? Et grâce aux chasses d'ailleurs, qui ont fait venir des millions de goïms en Israël, d'accord? Derry et compagnie, ils ont fait rentrer tous ces goïms en Israël. Ah, c'est pas grave, allez, les Russes, pas grave, les Russes, les Éthiopiens, allez hop, fais rentrer des milliers de goïms, c'est pas grave. D'accord? Ne respecte pas leur croc mi-youdi, fais rentrer des goïms, suffit qu'ils aient un ascendant juif à quatre trucs. Et aujourd'hui, ça nous a donné que, si vous regardez les chiffres, ils le disent pas parce que c'est pas de dire. Mais la plupart des crimes qu'il y a, c'est toujours des goïms. Les Russes qui tuent leurs femmes, ou les Éthiopiens qui tuent leurs femmes, ou leurs enfants, ou leurs trucs, ou les brutes qui frappent les orthodoxes à Mea Shearim ou à Gouch Katif, c'était des goïms. Ils sont bien dans ce rôle-là, de taper sur du juif. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part, une cruauté qui a été transmise. Parce que pour tuer, il faut être comme ça. Et donc, pour avoir fait ce geste-là, il faut sûrement que ce soit dû à son grand-père, Yitro. Et la Torah vient dire non, pas du tout. Il a fait ça en tant que descendant d'Aaron. C'est un acte de bonté qu'il a fait. Il a fait un acte de bonté, il n'a pas fait un acte de méchanceté. Donc la Torah répète ça ici pour nous dire, on n'est pas en train de dire d'où il vient, parce qu'on le savait, mais on est en train de confirmer que ce qu'il a fait, c'était par bonté et non pas par méchanceté. Donc ça change tout. Maintenant, qu'avait-il de spécial? Qu'y avait-il de spécial dans l'action de Pinchas qui mérite ce débat-là, si ça vient de là ou de là? D'accord? Quelle différence y a entre Aaron à Cohen et Yitro du temps où il était idolâtre? C'est quoi Aaron à Cohen? C'est quoi l'avodat Hashem, pardon, le travail d'Aaron HaKohen, mais c'est quoi le travail de Yitro avant sa conversion? C'est quoi? C'est toute la différence, et c'est la raison d'être de la création du monde. L'avoda Zara, en vérité, c'est l'avoda Atzmit. Quelqu'un qui fait avoda zara, il ne sert pas quelque chose d'étranger, il se sert lui-même. Avoda zara, les gens qui font avoda zara, c'est en vérité des gens qui se servent eux-mêmes. Toute leur vie, elle est branchée sur eux-mêmes. C'est ça l'avoda zara. Ne fait avoda zara que quelqu'un qui ne regarde que lui. Tout ce qu'il fait dans la vie, c'est pour lui. Il ne connaît pas l'autre. Et donc, avoda zara, c'est ce principe-là. Alors que Aaron, à Cohen, comme disent les Sfarim, que Aaron, à Cohen, c'est comme Abraham Avinu. Les deux représentent le sujet du chesed. L'avodat HaKodesh de Aaron HaKohen, c'est le Chesed. Et Aaron HaKohen, il est tout pour l'autre, comme Abraham Avinu. Toute sa vie, elle est pour l'autre. Donc c'est toute la différence et la symétrie entre l'avodat Zara et l'avodat pour le Kodesh. Avodat HaKodesh, c'est tout pour l'autre. Avodat Zara, c'est tout pour soi. Pas chute. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça veut dire que Pourquoi la Torah nous dit sans arrêt de faire attention à la avodah zara? Parce que c'est, dès que l'homme naît, il ne s'occupe que de lui, en fait. Et il va falloir l'éduquer pour qu'il apprenne à s'occuper de l'autre. Ça veut dire que le summum de l'avodat Hashem, c'est de donner sa vie pour le clan Israël ou pour un autre juif. Ça, c'est le summum de l'avodat Hashem, en fait. Donner sa vie, ce qu'on a de plus cher, pour l'autre. Et le summum de la avodah zara, c'est l'égocentrisme personnifié, c'est ne s'occuper que de soi, c'est ça va être chez nous, chez les juifs, c'est les gens qui s'appellent les rêves-raves. Les rêves-raves, c'est des gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, quoi. Ils ne s'occupent que de leurs intérêts. Pour ça, Colmert ou Sharon, etc., sont des gens qui sont capables d'emmener des gens à la mort, etc., parce qu'ils n'ont plus aucune sensibilité de l'autre. Ils sont tellement corrompus par rapport à leur égoïsme, qu'ils n'en ont rien à faire de la mort des autres juifs. C'est pour ça qu'ils sont irrévérables. C'est de là qu'on sait qu'ils sont irrévérables. C'est pas de qu'ils fassent Shabbat ou pas Shabbat, ou qu'ils mangent des huîtres ou pas. C'est qu'ils n'ont d'autres préoccupations dans la vie que leur tronche. Quitte à tuer d'autres gens. Puisque l'égoïsme est poussé jusqu'au bout, on s'en fiche de tuer les autres. C'est l'extrême. Donc, quel est l'argument des tribus? L'argument des tribus, c'est de dire c'est impensable que quelqu'un ait fait ce qu'il a fait de tuer un rabbi d'Israël, Shlumiel ben Surishadai, Zimri ben Salou, c'était Shlumiel ben Surishadai, la tribu de Shimon. C'est impensable qu'un homme puisse donner sa vie pour les autres. Comment à ce point-là on peut donner sa vie pour les autres? Donc certainement ça vient en vérité, ce mouvement-là il vient de l'autre côté. Il vient de sa descendance de Yitro. Donc leur étonnement était là. Comment peut-on donner sa vie à ce point-là pour les autres? On peut les aider un peu, leur dire bonjour, marrant de se lever pour eux dans l'autobus, mais donner sa vie pour les autres. Qui est capable de ça? Donc c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pas possible que ça vienne de ce côté-là, côté de Aaron, parce qu'Aaron on sait qu'il vit de donner sa vie pour le monde, pour les autres. Marrant, ben Adam la favero, il faisait la paix entre les gens, toute sa vie il a réservé à... Il a concentré sur l'autre. Donc, probablement que cet acte-là a été fait par cruauté et non pas par amour. Et la Torah vient dire, non, 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 c'est un acte dur, c'est vrai, c'est un acte de rigueur, c'est pas un acte doux, c'est pas matok, c'est chamoutz, mais ça vient de l'amour, ça vient pas de la haine. Donc, ça veut dire que, la Torah vous dit qu'il faut devenir Pinchas. Que la raison d'être sur la terre, c'est de faire comme Pinchas. De donner sa vie à l'autre. Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, la première chose que vous devez faire quand vous vous levez le matin, c'est dès que vous mettez le pied par terre, après Modé Ani, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain? Première chose à laquelle on doit penser. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de l'autre. Il y a plusieurs degrés dans l'autre. D'accord? Il y a l'autre immédiat qui est son conjoint. C'est l'autre immédiat, c'est son mari. Les enfants, j'en parle pas parce que c'est animal. Comme je l'ai expliqué un milliard de fois, l'amour des parents pour les enfants, c'est un amour animal. C'est un amour de soi, c'est pas un amour de l'autre. Quoi? L'amour des enfants, c'est un amour de soi. Donc c'est pas une grande chokhma. sauf si, que Dieu préserve, quand on est devenu erré brave, que même ses enfants, on s'en fiche. Mais a priori, quelqu'un encore de saint, au moins ses enfants, il les aimera parce que c'est lui-même. Au moins ça. Le béaba de l'autrui, c'est au moins de s'occuper de ne pas vouloir que ses enfants soient mal. Mais la première personne qu'on a sous ses yeux, c'est son mari, ou alors quelqu'un qui n'est pas marié, c'est ses parents. Quelqu'un avec qui on doit considérer autrui. Après, le voisin de palier. Après, le cousin. Après, jusqu'au juif le plus éloigné sur la terre. Donc, ça doit être le véhicule de notre vie, toute la vie. Non, ne rendrez pas si c'est pour soi, mais pas soi-même. C'est un tikkun. Quand je donne la tzedaka ou quand j'aide quelqu'un, on s'en fiche que ce soit égoïste puisque c'est metaken le monde. Ça arrange le monde, donc tout va bien. La preuve, c'est que la Gemara vous dit, si quelqu'un il perd de l'argent, dans la rue, et qu'un pauvre le ramasse, il a accompli la tzedaka. Alors qu'il n'avait pas l'intention de lui donner puisqu'il a perdu. Ou alors, plus grave que ça, quelqu'un qui donne de l'argent en disant, je donne de l'argent uniquement à ce pauvre-là pour que mon fils vive, il est appelé tzadik gamour. Tzadik parfait. Donc ça veut dire que la Torah ne se préoccupe pas de tes mobiles qui te font faire du chesed, que dès que tu fais du chesed, puisque tu répares le monde, on va pas chercher à savoir au début pourquoi tu le fais. D'accord? Alors maintenant, donc c'était ça l'étonnement des Shvatim. Ils ont dit c'est pas possible que quelqu'un puisse faire un acte d'amour aussi fort que ça. Donner sa vie, parce qu'il était, il risquait sa vie. Il risquait sa vie, puisque la Torah ne donne pas de mitzvah de tuer ce Zimri. Moshe Rabbeinu lui a dit, celui qui lit la lettre, il doit l'appliquer. Le Beit Din s'est tu, donc il pouvait avoir fait un faux pshat. Et pour un faux pshat, il pouvait être condamné à mort dans ce monde-là et dans l'autre monde. Peut-être qu'il a tué un tzaddik. Donc, pour avoir fait un acte aussi insensé, c'est que probablement, c'est par méchanceté qu'il l'a fait et non pas par bonté. Et la Torah vient dire non, c'est ça. L'extrême de la bonté, c'est ça. De donner sa vie. Ça veut dire, donc quand vous vous réveillez le matin, tout de suite, que puis-je faire pour mon voisin de palier, que puis-je faire pour celui-là, que puis-je faire pour celle-là, d'accord? Et rien qu'après, je prends mon café. Et donc, ça veut dire que l'acte minimal, c'est celui-là, et l'acte maximal, c'est celui de Pinchas. D'aller jusqu'à ne plus exister, ne penser qu'à l'autre.
On a sauvé l'honneur d'Israël.
C'est bien. Non, ça c'est une conséquence qu'il a voulu sauver l'honneur d'Israël. Ils ont dit, oui, on n'est pas en train de... Ça c'est de la... Il n'a pas sauvé l'honneur, il a sauvé la vie d'Israël, puisqu'il y avait une épidémie qui tuait les gens. Et quand il a fait ce qu'il a fait, l'épidémie s'est arrêtée. Donc c'est ça la Nekuda. C'est ça le point que le Messirut Nefesh de Pinchas, c'est pas Stam qui s'est jeté par la fenêtre et qui s'est donné la mort, non pas du tout. C'est qu'il avait en lui une telle volonté de rendre service à l'autre qu'il a été prêt à ça. C'est ça le point. C'est plus profond encore que sauver l'honneur ou sauver la vie. Non, il a donné sa vie pour. Et c'est ça qu'on demande de faire. Et surtout que Pinchas, comme vous savez très bien, que Pinchas, comme dit le Rachaïm HaKadosh, que Pinchas, c'est Mashiach ben Yosef. C'est l'attitude qu'on doit avoir avant la venue de Mashiach ben David. Donc Pinchas, c'est l'exemple. C'est pour ça que ça se passe juste avant l'entrée en Eretz Israël. 40 ans ont passé, on va rentrer en Eretz Israël. Donc avant la Géoula, la rentrée en Eretz Israël, le temple, etc., on te dit, voilà comment il faut se comporter, Pinchas. Vous comprenez? Donc c'est ça, la trame. C'est ce que Rachid nous explique, ouais. C'est pour ça qu'on répète Ben Aaron à Cohen. Donc c'est un moteur d'amour. Alors des fois évidemment l'amour passe par la rigueur ou par la bonté. L'amour c'est pas toujours les caresses et le chocolat. L'amour ça peut être aussi la dureté. Mais là c'est le point il est pas sur l'acte lui-même, il est sur le mobile. Le mobile c'est le sens du sacrifice. Et c'est ça qui doit nous motiver à chacun d'entre nous. Et dès qu'on a réglé ce problème-là, on a réglé son tikkun absolu. Et tout le reste, ce n'est que des fioritures. Ce sont des fioritures. Le Shabbat, la Shemitah, la Kashrut, ce sont des fioritures pour faire cette mitzvah comme il faut. Cette mitzvah comme il faut de... Et donc, vous avez donc deux choix. Soit de devenir Erev Rav, soit de devenir Pinchas. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez quelqu'un, dans la rue, vous regardez quelqu'un, il fait la tête. En règle générale, s'il fait la tête, c'est parce que c'est des problèmes personnels qui le dérangent. C'est très rare que quelqu'un fasse la tête parce que c'est les problèmes d'un autre qui le dérangent. Donc ça veut dire que chacun fait du nombrilisme. Chacun fait du nombrilisme. Chacun regarde ses problèmes. On te dit non, arrête avec, oublie-toi, fais comme Pinchas, oublie-toi, tu n'existes plus. Il n'y a que l'autre qui existe. Fais la tête parce que lui, il n'a pas de quoi manger. T'occupe pas de tes problèmes à toi. Tu n'as pas de problème. C'est les autres qui en ont. Donc tu déracines doucement l'égoïsme qui fait que les gens ne regardent que leurs affaires. Alors que c'est la clé de tout. Occupe-toi des autres, oublie-toi, et tu as réparé le monde. Alors quelqu'un va dire, attends doucement, c'est terrifiant. Si je dois m'oublier complètement, c'est terrifiant. Je ne peux pas être Pinchas. Ça fait très mal de s'occuper de l'autre. Parce que l'individu ne s'intéresse qu'à lui. L'homme a beaucoup de mal à se séparer de ce qui est à lui, de son énergie, de son argent, de son temps pour l'autre.
Oui, c'est un sacrifice.
Ça s'appelle un sacrifice. D'accord? Ça s'appelle un sacrifice. Et donc, on pourrait poser la question, mais est-ce que quelqu'un est prêt à faire ce sacrifice? Alors c'est pour ça que la Torah répond, la reine est morte. C'est pour ça que je dis qu'il faut, je lui donne mon alliance de shalom. Pourquoi il a dit mon alliance de shalom? Il aurait pu dire mon alliance de tzedek, mon alliance de mishpat, mon alliance de chesed, mon alliance d'elokout. Pourquoi le mot shalom? Pourquoi on lui donne l'alliance du shalom? C'est que le shalom, vous connaissez ce, un des sacrifices s'appelait le shlamim. D'accord? Il y avait la hola qui était complètement brûlée, et il y avait le shlamim, le khatat qui était brûlé aussi, en expiation, et il y avait l'offrande qui s'appelle Shlamim. Pourquoi on l'appelle comme ça? La Torah nous dit parce que on donnait un morceau de la bête, on brûlait un morceau de la bête sur l'autel, donc Dieu avait sa part en quelque sorte, on donnait une partie au Kohanim, donc ils étaient contents, ils n'avaient pas travaillé pour rien, et on donnait une partie au propriétaire, tant qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir tout perdu dans cette histoire-là. Donc il y avait trois gagnants dans ce korban, c'est pour ça qu'on l'appelle Shlamim. Que le Kohen gagnait, le bon Dieu gagnait, et le propriétaire gagnait. Et donc, la Gemara nous dit, parce qu'il faisait le shalom entre tout le monde. Tout le monde était content. Chacun avait eu quelque chose de ça. Et c'est ça qu'on vient t'apprendre. On te dit, lui, Pinchas, quand il l'a fait, cet acte-là, il l'a fait sans espoir de retour. Il a pas réfléchi à ses conséquences. Peut-être qu'il allait tout perdre. Mais on te dit, non. Tu sais ce que tu as quand tu donnes tout. Tu as le shalom. C'est-à-dire, pas seulement que tu vas pas perdre, mais tout le monde va être content. C'est-à-dire, toi, celui à qui tu as donné, et le bon Dieu qui se réjouit qu'il y a un équilibre. Donc c'est pour ça qu'on dit, je te garantis que je lui donne Briti Shalom. C'est-à-dire que celui qui fait mes séroutines fèche pour les autres, eh ben, on lui dit, il reçoit le Shalom. Ça veut dire qu'il reçoit que lui-même, il ne va pas perdre ça dans sa vie, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre. Il va faire plaisir à l'autre. Et Dieu va se réjouir et il va amener de la bénédiction au monde. Donc tout le monde est gagnant. Il y en a un qui est perdant, c'est le Yetzer Hara, bien évidemment.
Oui.
Quoi? Mais même après, le Yetzer Hara, il dit, oula, t'as bien fait quand même. Mais sur le coup, il est très mécontent. Parce que le Yetzer Hara, il aurait voulu tout pour moi. Donc on voit que la paracha de Pinchas, c'est donc la paracha de, c'est pour ça qu'on lit ça pendant les 3 semaines. Parce que tout le tikkun de 3 semaines, c'est pas de jeûner, comme j'ai dit, il y avait des bachurim qui sont venus hier soir. Je leur dis, entre nous, vous avez pensé un instant aux tables brisées, et au tamid qui a été, vous avez pensé que vous avez faim? Ils m'ont dit, ah, c'est shalom, soyez honnête. Dans la tête des gens, le jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh là là, mal de tête, Coca-Cola, comment on va faire? Donc il n'y a plus aucun sens à ces jeûnes qu'on fait. Plus aucun sens. Il n'y a personne qui pense à se déchirer à cause du Beth-Amikdash. Tout le monde n'a rien à faire du Beth-Amikdash. La seule gêne que les gens ils ont, c'est qu'ils vont pas pouvoir partir en vacances, manger, etc. Donc c'est complètement vidé de son sens ces jeûnes qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'il nous reste alors? Qu'est-ce qu'il nous reste, ça? Le petit coup de 3 semaines, c'est le fait que chacun vivait pour soi. Et ça a donc entraîné, le fait de vivre pour soi, ça a entraîné la conséquence qu'on connaît de la haine gratuite. C'est ça la Nekouda qu'il faut voir. C'est pour ça que quand les gens me disent, je dois jeûner, je dois pas jeûner, je dis, tu me gonfles pas, tu te sens pas bien, mange et fous-nous la paix, d'accord? La Torah n'a jamais dit de jeûner, par contre c'était une xéra pour, maintenant si tu peux pas, jeûne pas, mais sois un bon juif. Reprends l'essentiel et laisse l'accessoire. Les gens, ils disent, ah, il a jeûné, il a pas jeûné. On s'en fiche. Il a jeûné, il a pas jeûné. Ma chérie, il viendra pour autant, parce qu'il a jeûné, il a pas jeûné. Tu t'es fait souffrir, c'est tout ce que tu as gagné. Donc, Bekitsour. Tu vas dire, attends, réga, à quoi il sert ces 3 semaines, là? À jeûner? Par contre, les gens, ils entrevoient déjà Tisha B'Av avec une angoisse, vous voyez. C'est pas qu'ils se disent Tisha B'Av et ma chère sera pas là. Non, ils ont dit Tisha B'Av et on va encore se mortifier jusqu'au 8h-5. Alors on oublie l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est le tikkun. Le tikkun de notre être, c'est pas le tikkun des fautes. Tikkun, ça veut pas dire réparer une faute forcément. Tikkun, ça veut dire accomplir quelque chose. Et le tikkun, c'est se battre contre l'égoïsme forcené dans lequel chacun est plongé à longueur de jour et de nuit. Et donc c'est pour ça on te dit, commence comme ça, même si tu fais du bien pour te faire plaisir, continue à le faire. Le pauvre, lui, il ne sait pas pourquoi tu lui as donné, mais il est content. Il n'a pas vu, ah, celui-là il m'a donné parce qu'il voulait que son fils soit en bonne santé, mais celui-là, non, c'est mieux, celui-là il m'a donné, le Shem Shamaïm. Que je m'en fiche, sur ma table il y a le steak, je suis content. Qu'est-ce qu'il a à faire, le pauvre, d'où ça vient? Ce qui l'importe, c'est qu'il a. Vous avez compris? Pas une mitzvah où on discute si c'est des euros ou des dollars ou de... Le résultat, c'est la joie du pauvre, c'est tout ce qui compte. C'est que quelqu'un à qui vous avez dit bonjour, il est content, vous l'avez, il existe maintenant, vous lui avez dit bonjour. Même si c'était des motivations parce que c'est sorti du cours, alors vous dites, ah, je vais dire bonjour, ok. Toujours est-il que vous lui avez dit bonjour, il était content. Vous avez sauvé quelqu'un, vous lui avez dit bonjour. Donc on voit que le tikkun de Kupin Kras a fait, c'est d'amener que donner sa vie pour l'autre, ça ne fait pas de dommage, au contraire, ça ne fait que du shalom. Ça amène la paix chez chaque chose, dans chaque chose. Alors que le fait de ne penser qu'à soi, ça n'amène que de soi et des autres. C'est pour ça que la Torah, dans les livres de Chassidut et de Moussar, la plus grande crainte, c'est de devenir Erev Rav. Ne pas devenir Erev Rav. Erev Rav, c'est ça. C'est de ne penser qu'à soi. Et donc, il faut fuir l'égoïsme et aller sans arrêt vers l'autre. C'est pour ça que je me bats au téléphone avec tous les assistantes sociales et les machins qui poussent au divorce et les machins. Tout ça ne mène à rien. Toutes les œuvres de séparer les êtres, ça n'amène pas de shalom, rien du tout. Ça n'amène rien de bien. C'est négatif. Combien de fois je me suis pris de bec avec ces idiotes là au téléphone là. Ils sont payés par l'État pour nous faire suer, vous voyez. Moi je suis pas payé ni par l'État ni par Plony. Et eux ils sont payés pour faire la destruction du monde. C'est vrai que ça a donné des miracles. C'est vrai que tous les enfants divorcés, il n'y a pas plus équilibré, il n'y a pas plus heureux, il n'y a pas plus. Vous comprenez? C'est vrai que les enseignements ça leur sert, les enseignements à l'État d'Israël, ça leur sert beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe d'être tourné vers l'autre, ça règle tout. Ça règle ses problèmes personnels et les problèmes de l'autre. Donc on a gagné deux fois, alors que dans l'autre cas, on perd deux fois. Pour ça, je le dis, quand il y a des enfants, quand des enfants grandissent, il faut tout de suite leur apprendre à donner, à se priver de ce qu'ils ont pour le donner à l'autre. Casser leur ego. Oui, mais il veut qu'on le voie pour qu'on apprenne de ça. Voilà, apprendre qu'il faut donner. Donc, toi, au début, ça te déchire, et après, tu prends la graine, tu fais comme tu dis, attends, mais Pinchas, c'est bien, il a eu le shalom de ça, il a pas perdu. Lui, il a fait Misirut Nefesh, il a donné sa vie. Il savait pas qu'il allait avoir le shalom. Mais toi, on te dit, voilà, la porte a été ouverte, ça amène le shalom, ce que tu fais. Ne crains rien, tu vas rien perdre. Donc, c'est pour ça quand on dit dans les lois du Maaser, par contre, que la loi du Maaser, c'est la seule mitzvah sur laquelle tu peux éprouver Dieu. Tenassou Otid, le bon Dieu dit, faites-moi une épreuve, que quand vous donnez le Maaser, je vous donnerai, plus, je vous donnerai la valeur du capital du Maaser que vous avez donné. Éprouvez-moi là-dessus. Donc quand on dit donner le Maaser, ça enrichit. C'est pas seulement le maaser d'argent Parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de donner du maaser d'argent, mais ils peuvent donner du maaser de leur temps, du maaser de leur force, du maaser de leur... Du maaser de donner le dixième au moins de leur énergie pour l'autre. Et comme il dit le Admon Hazaken dans le Igeret HaTshuva, qu'on a lu il y a quelques jours, il dit, quand la Gemara elle dit qu'il ne faut pas donner plus que 20%, quand on dit ne faut pas donner 20%, c'est pour quelqu'un qui est en bonne santé. Mais quelqu'un qui serait malade, voilà qui donnerait beaucoup plus de 20% s'il devait aller chez le médecin. Donc, dans les générations dans lesquelles on est, qui sont des générations malades, il ne faut pas hésiter à donner plus de 20% de son énergie. Il faut arriver, comme il dit là-bas, il faut arriver dans une lettre, dans Igeret HaKodesh, il écrit qu'il faut arriver au statut de l'envers, à l'envers. C'est-à-dire ne garder plus que le minimum pour soi et donner tout le reste à l'autre. Il faut le faire, hein, d'arriver à ce degré-là. De ne donner plus, de ne se contenter que du minimum pour soi, et tout ce qui n'est pas minimum, on le donne à l'autre. Bon, disons que c'est une ambition déjà, qui est un projet à long terme pour nous, mais au moins commencer par l'exercice d'être tourné vers l'autre. C'est pour ça que je me dis, le premier geste de la journée, mettez le pied par terre, comment puis-je aider X ou Y? Puis-je aider X ou Y? Soit financièrement, soit moralement, soit par un coup de fil, soit par... Il y a des milliards de façons de... Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette extraordinaire action de Pinchas?
D'accord que l'amour, le sens de sacrifice, c'est son moteur, mais c'est un homme qui n'a pas peur de l'opinion de la masse, du milieu.
Non, ça c'est la conséquence que vous dites. C'est la conséquence de ça. Quand on est prêt à donner sa vie, il y a comme conséquence ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est pas la cause, c'est une conséquence. Parce que l'autre est au-dessus de tout, que je ne m'en fiche de ce que l'on va penser, c'est une conséquence que vous dites. C'est pas une cause.
Non, ça peut être un
frein. Non, c'est pas vrai. C'est pas un frein, c'est parce que c'est, en vérité, il n'y a pas chez eux le jusqu'au boutiste. Il faut être juste, parce qu'on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, alors, automatiquement, on est bloqué par le qu'en dira-t-on, ou alors, les conséquences. Qu'est-ce que ça va faire, ce que je suis en train de prendre? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et quand je vous parle, évidemment, je ne parle pas à d'autres, je parle à chacune d'entre vous. Que chacun prenne l'enseignement uniquement pour lui-même et pas pour l'autre. Ça commence avec il n'y a pas de surtout. Il y a un céder. Il y a le conjoint, il y a les autres, tata. Ben, il y a écrit, la première personne avec qui on doit faire Avat Israël, c'est le conjoint.
Mais c'est pour ça qu'il y a un grand jour,
d'ailleurs, non? Oui, mais t'as un grand jour. Tout s'apprend. Non? Non? Ben alors, vous avez tout cassé, là. J'ai tout cassé, vous avez tout cassé. J'accepte de rendre service à l'autre à condition que je sois garanti que l'autre ne me rende pas l'ascenseur. Là, j'ai tout cassé. Ça ne s'appelle pas Pinchas, ça s'appelle... Ça s'appelle...
Avodah
Zarah. Vous ne donnez pas si vous ne recevez pas en retour. Voilà pourquoi vous n'avez pas de maison en Israël, votre question de lundi. C'est très gentil de le dire, vous êtes franche. Ben voilà, c'est très, très embêtant. Il faut être... Donner sans attendre, c'est pas pachout. Quand on dit là-bas dans Vayechi que Yosef, que Yaakov dit à Yosef, fais-moi, je t'en prie, un chesed chez les mecs, alors on dit que le chesed qu'on fait à un mort, c'est un chesed, parce qu'on n'attend pas de retour. C'est pas forcément un mort. Le chesed chez les mecs, c'est un chesed qui n'attend pas de retour, pas forcément un mort. Même quelqu'un qui, au contraire, quelqu'un qui est mort, vous dites, ah, il peut prier pour moi là-haut. Donc, quand vous êtes tous croyantes dans le monde futur, vous dites, je vais lui faire kavod parce que il va être un bon avocat pour moi. Donc c'est pas un vrai chesed chez les maîtres avec le mort aujourd'hui. C'est avec les vivants que c'est un vrai chesed chez les maîtres. Vous avez compris? Donc il ne faut pas avoir cette politique. Faut dire, et je vous dis plus, je vous dis plus fort que ça encore. Plus fort que ça. Si vous faites un chesed à quelqu'un et qu'il est gentil avec vous parce qu'il le reconnaît, d'accord, eh ben vous avez fait moins la mitzvah que si quelqu'un vous lui faites un chesed et qu'il vous crache à la figure. Il faut arriver à la darga, pas de rechercher ça, le shalom, parce que c'est tout, c'est pas évident. Pas de rechercher les ennuis, mais que si, que Dieu préserve, vous tombez sur quelqu'un qui vous crache à la figure pour le reset que vous lui avez fait, vous devez dire, oh Hachem, Ezo mitzvah. Alors que si quelqu'un il est bien élevé avec vous, il a une reconnaissance, pour lui c'est mieux qu'il ait une reconnaissance. Mais en vérité pour vous c'est pas mieux. Donc vous voyez qu'il faut arriver à la targa. C'est pour ça que je vous ai dit, ça s'appelle du masochisme. Pas du masochisme, parce qu'à la fin du, alors, en fin de compte, vous aurez le shalom dans cette affaire-là.
Oui, d'accord. Mais comment ils font pour cracher la figure des gens qui parlent?
Il y en a qui le font.
Mais je sais, moi.
Vous le faites vous-même.
Moi, j'ai ça toute la journée. Je reçois ça toute la journée, je reçois ça.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, c'est Baruch Hashem, ça veut dire que quand on fait quelque chose, si on a du mal en échange, ça nettoie très bien la Neshama. C'est-à-dire que vous avez donc fait la chose pour la Mishma. C'est très propre, très pur. Mais il faut pas devenir masochiste, il faut pas rechercher ça. Au contraire, il faut éduquer les gens à dire que le chesed, ils doivent le comprendre. C'est pas bon pour eux qu'ils soient ingrats. Pas bon. Mais si ça vous arrive, c'est justement parce que quelque part vous attendiez le merci.
Merci.
Il ne faut rien attendre. Comme ça, si vous n'attendez rien, sincèrement, si vous n'attendez rien sincèrement, là vous n'aurez pas d'ennui. Parce que de toute façon, vous n'avez pas mis la barre très haut. Vous n'attendiez rien. C'est comme le principe du. Une belle nekuda, la différence entre le prêt et le don. Qu'est-ce qui est plus difficile, de prêter de l'argent à quelqu'un ou lui donner de l'argent? C'est lui prêter qui est plus difficile. Parce que quand vous lui donnez, comme on dit en français, vous avez fait une croix dessus, ça y est. Vous avez fait votre mitzvah, shalom, je ne vais plus entendre parler. Alors que quand vous prêtez, pratiquement sûr qu'ils ne rentrent pas. Les gens à qui vous prêtez, en règle générale, ils ne rentrent pas. Et comme vous n'avez pas la force d'aller au tribunal ou à la police, etc., donc vous avez perdu cet argent de toute façon. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous demande un prêt, à moins que ce soit vraiment quelqu'un que vous êtes obligé d'aider par un prêt, il vaut mieux lui dire, tu sais quoi, je te donne pas 50 francs, je te prête pas 50 francs, je te donne 20. Et je vais essayer. Ah bon? Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que le sentiment de désagrément qu'on a quand on prête de l'argent, qu'on prête quelque chose et qu'on vous le rend pas, est pire que le fait d'avoir donné en disant, bon, allez, ça y est, je le donne et je j'y pense plus. C'est très embêtant. Pourquoi la Torah, elle dit que celui qui rend pas, il ferme la porte aux autres emprunteurs? Parce que ça ne donne plus envie de prêter quand quelqu'un, quand vous savez que la plupart des gens ne rentrent pas. Vous avez compris? Moi, j'ai un gmar. Un gmar. Quoi? Comment? Alors, la plupart du temps, La plupart du temps, je fais un contrat avec les gens, je sais pas, mais la plupart du temps, ils me le rendent pas ou ils me le rendent au... Est-ce qu'ils... Ou ils n'ont pas, ou alors ils... Ou alors ils... Vous voyez? Parce que les gens s'imaginent qu'ils vont avoir, comme on dit en français, ils vont se refaire. Mais en général, ils se refont pas. Ils sont toujours dans la même nullité financière, donc ils peuvent pas vous rendre. Donc quand vous faites ça, vous dites, bah, a priori, en vérité, je préfère lui donner hein, inférieur que ce qu'il demande et pas lui demander qu'il me le rende. Sinon, vous vous rendez malade. Donc c'est pas bon. Si on sans arrêt on vous reproche quelque chose, c'est que vous aviez trop tendance à attendre. Et Dieu, il veut pas de vous de ça. Il veut que vous fassiez une mitzvah pour elle-même. Et la meilleure façon de faire la mitzvah pour elle-même, c'est de ne pas attendre quoi que ce soit, et même pire que ça, d'attendre le contraire, d'attendre la vengeance. C'est dans la psychologie. J'ai parlé avec un psychiatre il n'y a pas longtemps, il m'a raconté ça. Alors je lui dis, ah, vous avez quelques trucs dans ce qui n'est pas la Torah, il y a quand même quelques vérités là-bas. Il y a quand même quelques vérités dans les sciences goy, quand même. Et c'est un juif, lui. Il dit, ah, quoi, tu me dis ça, la psychiatrie? Je dis, oui, la psychiatrie, c'est vrai, ouais, c'est un cent millième de la chassidoute. Il dit, bon, ben ça va, vous avez quand même quelques miettes chez vous. Alors, il m'a dit, voilà, je vais te dire quoi. En psychanalyse, c'est très fréquent, ce phénomène-là. De l'ingratitude. Quelqu'un à qui vous avez trop donné, étant donné qu'il ne peut pas rendre le millième de ce que vous lui donnez, donc il se venge en disant je parle plus avec lui. Vous avez compris? C'est un phénomène psychologique très très fréquent. Donc je dis, mais ça c'est classique ça. Lui qui a reçu, n'étant pas capable de gratitude, de pouvoir rendre ce qu'on lui a fait, donc il peut pas être associé à ça. Donc au lieu de dire bon ben merci quand même.
Merci, ouais.
Ça, c'est une preuve d'humilité. Comme on peut pas avoir cette humilité-là, donc on renverse. On dit, oh, mais qu'est-ce qu'il m'a fait après tout, vous voyez? Donc c'est très, 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 très classique parce que l'être humain est comme ça. C'est pour ça que vous, quand vous le faites, vous devez pas dire, ah ben, avec tout ce que je fais, j'attends au moins qu'il me dise bonjour. Non, pas merci, bonjour. Merci, c'est beaucoup, mais bonjour. Non, attends-toi à ce que même bonjour, il ne te dira pas.
Alors pourquoi c'est vrai?
Et plus fort encore, des fois, il peut te maudire quelque part.
Mais pourquoi cette réaction, alors?
Parce que c'est l'incapacité de rendre. Alors, quand on est un âme, on se dit, de toute façon, rien ne m'appartient, donc ça vient de lui, de Dieu, donc je... Toda kol majer. Ou je dis merci à tout, hein? Ou je suis orgueilleux, c'est dur pour moi d'accepter d'être toujours assisté par il m'a donné, donc je dis quoi, ça encore il m'a rien donné. Quelqu'un, on m'a dit qu'il m'a fait ça, avec tout ce que je lui ai fait, mais c'est des trucs inimaginables. Il a été dire, mais avec tout l'argent qu'il prend pour lui, il m'a donné que des miettes. J'ai dit, bon, ok. Bon, Hachem, je crois avoir fait une mitzvah, tu vois. Avec tout l'argent qu'il prend pour lui, donc tout ce qu'il m'a fait, c'est en vérité, il m'a traité comme un... Ah, j'ai dit, ah, ça c'est fort, le renversement total de la situation. Donc ça veut dire, c'est une bracha tout ça, c'est une bracha. Ça vous fait faire Mesirut Nefesh. Vous donnez votre vie, et au lieu d'avoir un merci, c'est pour ça que quand il y a des pauvres qui demandent l'argent, alors je leur dis, Maomri, alors ils font Todaraba. Je dis, lo Todaraba, tiske la mitzvot. Ne dis pas Todaraba. Todaraba, si tu dis Todaraba, c'est que tu me payes dans ce monde-là. Je ne veux pas être payé dans ce monde-là. Tiske la mitzvot, c'est-à-dire, et le mérite d'en faire d'autres. Il faut dire à quelqu'un qui vous fait un bien, tiske la mitzvot. Fais-en encore. Si tu dis Todaraba, tu lui as donné en quelque sorte sa satisfaction, il dit, ah ben celui-là, moi il est bien élevé, ça fait plaisir de lui faire du bien. Ah, t'as tout gâché.
Et si vous donnez
une bracha? Une bracha, oui, une bracha. Mais la meilleure bracha, c'est de lui dire, tiske la mitzvot. Que tu as encore le mérite de continuer.
Et si vous dites,
que tu es la veillou? L'homme chané, c'est le même style. Si ce qu'est la mitzvot, c'est encore mieux, parce que si vous, que vous ayez la brioude, ok, je vais le faire avec la brioude. Alors si vous dites si ce qu'est la mitzvot, c'est qu'il vous met, qu'il vous bouge tout le temps. Tu auras le mérite de faire les mitzvot, donc tu seras en bonne santé pour les faire, tu auras ta tête pour les faire, tu auras de l'argent pour les faire. Donc au contraire, il ne faut pas demander un remerciement. Il ne faut pas rechercher un remerciement. Il faut rechercher l'investissement parce que c'est tikkun, vous réparez tout là-dedans. Et t'inquiète pas que le bon Dieu, il fait ses comptes. Si c'est ça qui t'inquiète, voilà, il a donné le shalom. Et les autres soirs, non, ça veut dire. Vous aurez votre maison. Et vous nous inviterez à côté de votre piscine. Voilà, Shabbat Shalom.